que vais-je faire? Il y en a peut-être qui se posent la question, après tout le temps passé dans les travaux, puis en plus on a fait une bonne petite, un bon petit final là avec des travaux tous les samedis et du rab en semaine pour ceux qui étaient disponibles. Et il y a comme un vide. Maintenant, que vais-je faire? Qu'allons-nous faire? Après 2 ans et 1/4 de travaux, on avait commencé en octobre 2018, après plus de 5 ans de projet, c'était Noël 2015 où nous avons visité ce bâtiment pour la première fois. Et là, je regarde qui était là, Noël 2015. Il y en a pas mal qui sont arrivés depuis et qui n'ont jamais connu cette église que dans l'attente de la finalisation de ce projet. Ça laisse un vide. J'aimerais vous proposer un texte de la Bible dans Josué, dans le livre de Josué, au chapitre 3. Un moment peut-être où le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, se posait un peu la même question. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un moment où ils sont enfin entrés dans le pays promis. Ils l'ont conquis, ils s'installent, chacun rentre chez lui. Et Josué, qui a mené la conquête, fait son message d'adieu. Josué, chapitre 23, à partir du verset 3. J'en lis qu'une partie parce que son discours est long. Vous avez vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous. C'est le Seigneur qui a combattu pour vous. Regardez, je vous ai attribué par le sort comme patrimoine, tribu par tribu, ces nations qui restent à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai rentrochées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Le Seigneur, votre Dieu, les repoussera loin de vous et les dépossédera devant vous. Vous prendrez possession de leur pays, comme le Seigneur, votre Dieu, vous l'a dit. Efforcez-vous vraiment d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche, sans vous mêler à ces nations qui restent avec vous. Vous n'évoquerez pas le nom de leur Dieu, vous ne prêterez pas serment par lui, vous ne les servirez pas, vous ne vous prosternerez pas devant eux. C'est seulement au Seigneur, votre Dieu, que vous vous attacherez, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Le Seigneur a dépossédé devant vous les grandes nations fortes. Personne n'a pu tenir contre vous jusqu'à ce jour. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui combattait pour vous, comme il vous l'avait dit. Prenez donc bien garde à vous-même et aimez le Seigneur, votre Dieu. Car si vous vous détournez, si vous vous attachez à ces nations qui restent avec vous, si vous vous alliez à elles par des mariages et si vous vous mêlez à elles, sachez bien que le Seigneur, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous. Elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous disparaissiez de cette bonne terre que le Seigneur, votre Dieu, vous a donnée. Arrête ici la lecture. Je le disais, pour le peuple, c'est le passage d'une étape. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte il y a 40 ans, même un peu plus. 40 ans de chemin aéré dans le désert, puis une campagne militaire. Les voilà arrivés à destination. Et ce n'est pas tout à fait fini parce qu'on l'a lu, il y a encore des peuples qu'il faut continuer à repousser. Pour l'instant, ils sont petits, un petit territoire leur suffit, mais il y a encore à repousser plus loin. Quel est le but de ce discours de Josué. Le but, il est double. Premièrement, c'est de rappeler au peuple ce qu'il a vécu. De le rappeler afin qu'il le grave dans leur mémoire et puis de leur donner la signification de ce qui s'est passé. Ce n'était pas juste une suite d'événements, une suite de batailles, une suite d'étapes dans le désert. Ça avait une signification. Dieu leur a donné le pays. On le voit au verset 3. Vous avez vu tout ce que le Seigneur a fait à toutes ces nations à cause de vous. Donc le but, c'est d'abord de rappeler ce qui s'est passé, en donner une signification, et ensuite de donner la direction. Et la direction, elle n'est pas nouvelle. Verset 6, efforcez-vous vraiment de respecter la loi de Moïse. La loi de Moïse, ils l'ont depuis le début de leur voyage dans le désert. Efforcez-vous de la respecter. Efforcez-vous vraiment. À ce moment clé, c'est les deux messages que donne Josué au peuple au moment où il va les quitter. Rappeler ce qu'il a vécu et donner la direction afin d'ancrer ce moment et cette direction dans leur mémoire. Et nous aussi, nous entrons dans ce bâtiment. Il nous reste encore des choses à faire. La tisannerie qui n'est pas faite, le sol qu'on aimerait plus beau, les pièces qui sont encore à conquérir. Nous le ferons de l'intérieur. Aujourd'hui, nous entrons dans ce bâtiment. Et c'est un bon moment pour rechercher la direction de Dieu, pour nous rappeler la direction de Dieu. Pendant longtemps, le point de mire, l'horizon, c'était l'entrée dans ce bâtiment. Et comme quand on se promène en montagne et qu'on voit le sommet vers lequel on se dirige, et maintenant qu'on y est, c'est quoi la suite? Le chemin n'a pas changé, mais le point de mire, il faut le retrouver pour continuer à avancer. Et j'aimerais voir avec vous trois points. Trois choses que j'aimerais partager, que j'aimerais que nous ancrions dans nos mémoires concernant ce bâtiment. Et la première, c'est que ce bâtiment, cette église avec un E minuscule, si vous vous souvenez ce que j'ai dit la semaine dernière, cette église n'est pas la terre promise. La terre promise, c'est quelque chose de particulier. La terre sur laquelle Josué se trouve au moment où il part. C'est particulier. C'est l'accomplissement d'une autre promesse. Et peut-être il faut rappeler ce que nous raconte l'histoire biblique. Parce que la Bible n'est pas une suite de récits, mais elle nous raconte une grande histoire. Elle nous raconte que Dieu a créé le monde bon, mais que l'homme a péché. L'homme a gâché la création de Dieu. Et c'est l'état dans lequel nous sommes et nous le voyons. Non seulement la maladie, la mort, mais l'injustice. L'homme qui exploite l'homme de façon organisée et terrible ou de façon petite et mesquine, comme nous pouvons le faire au jour le jour. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Et depuis le début, Dieu n'a eu de cesse d'amener l'humanité de retour vers ce monde beau qu'il a créé. Et la Bible raconte cette histoire avec des étapes successives, des étapes pédagogiques. Et une de ces étapes pédagogiques, c'est le peuple d'Israël. Dieu a choisi un peuple. Il a choisi un homme, Abraham, et de ses descendants a été issu le peuple d'Israël. Et ce peuple, il a passé une alliance avec lui. Il a promis qu'il l'installerait dans un pays. Il choisit un peuple, il lui donne une loi, il les installe dans un bon endroit, en les sortant de l'esclavage de l'Égypte. et leur dit maintenant, gardez mes commandements. Vous êtes dans la terre promise. Et ce que nous dit la Bible aussi, c'est que ça ne marche pas. C'était une étape pédagogique pour montrer qu'il y avait besoin que Dieu donne plus. Et après l'échec du peuple d'Israël et de cette terre promise, il y a Jésus qui est donné pour que chacun puisse, en reconnaissant son péché, son imperfection, qu'il ne peut pas s'en sortir seul, chacun puisse mettre sa confiance en Jésus. Et Dieu promet que ceux qui mettent leur confiance en lui, il reviendra. Il reviendra pour vivre avec eux éternellement dans un monde débarrassé du péché. Et s'il y a une terre promise à laquelle nous aspirons, c'est celle-là. Ce n'est pas un bâtiment, aussi beau soit-il, c'est le retour du Jésus-Christ, ce retour qu'il nous promet. Donc ne nous trompons pas en regardant ce bâtiment. Ce bâtiment n'est pas notre point d'arrivée. Ce n'est pas la terre promise. Ce bâtiment est un outil. Un outil que Dieu nous donne. Les récits de l'Exode et de la conquête sont inspirants. Parce que nous aussi, nous nous sommes mis en marche. Nous aussi, ça a pris du temps. Nous avons eu des péripéties. Mais il y a cette différence majeure. Nous ne sommes pas arrivés. Et nous devons continuer en attendant le vrai repos en Jésus-Christ lors de son retour. Voilà pour ce premier point. La deuxième chose que j'aimerais que nous retenions concernant ce bâtiment, c'est que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et ça, c'est quelque chose que Josué rappelle au peuple. Vous, vous avez vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Et plus loin dans son discours, au chapitre 24, verset 13, Josué a cette parole très forte où il parle de la part de Dieu en disant « Je vous ai donné un pays pour lequel vous ne vous étiez pas fatigués. » Des villes que vous habitiez sans les avoir bâties, des vignes et des oliviers dont vous vous nourrissiez sans les avoir plantées. Je vous donne un pays pour lequel vous n'êtes pas fatigué. C'est un peu dur à entendre, j'imagine, pour le peuple. Parce que quand même, ils y sont allés avec leurs javelots à courir et à se battre. Et puis certains sont morts, il y a du sang qui a coulé. Un pays pour lequel vous n'êtes pas fatigué, vous ne vous êtes pas fatigué. Je crois que la vérité qui est exprimée ici, c'est que sur le papier, le peuple n'avait aucune chance. C'était un petit peuple quand il sort d'Égypte, on parle d'un ramassis, des gens qui ne sont pas formés au combat. Seul, sans Dieu, il n'avait aucune chance. Et nous-mêmes, qui aurait cru qu'une petite église d'une soixantaine de membres puisse se lancer dans un projet à plus d'un million d'euros, de plus de 800 jours de travaux en autoconstruction? Et j'ai le souvenir de nos discussions en Assemblée Générale et de nos craintes, où nous disions « on n'y arrivera pas ». Il n'y a pas de bricoleur dans cette église, ou alors tellement peu. C'est trop gros pour nous. Mais nous nous sommes mis en route. Nous nous sommes mis en route dans la crainte, mais poussés par Dieu, avec la conviction qu'il voulait que nous allions dans cette direction. Nous y sommes allés, avec nos doutes, en priant qu'il nous guide le long du chemin. Et nous nous sommes mis en route avec ce que nous avions de confiance en lui. Et ensuite, nous avons avancé un pas après l'autre. Chacun a mis la main à la pâte selon ce que Dieu lui mettait à cœur, un peu comme dans le chapitre 3 du livre de Néhémie qui était cité au début de la vidéo. Puis le Seigneur a été bon. D'autres sont venus nous aider de l'extérieur de l'Église pour les travaux ou pour des dons financiers. Et on peut voir dans ces dons extérieurs comme une confirmation de ce que nous n'étions pas suffisants, de ce que nous avons besoin que Dieu donne plus, qu'il complète. Il a complété, il a pourvu, il nous a équipés. Si nous y sommes arrivés, c'est grâce à Dieu. Mes amis, comme Josué le dit au peuple, c'est Dieu qui nous a donné ce pays. Il nous dit à nous aussi. Je vous dis à vous aussi, c'est Dieu qui vous a donné ce bâtiment. Et nous devons nous en souvenir, nous le répéter, pour ne pas être orgueilleux. La Bible nous rappelle, notre fierté doit être dans le Seigneur. Le prophète Jérémie écrivait, « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de me connaître, moi qui suis l'Éternel, qui agis avec bienveillance, qui exerce le droit et la justice sur la terre, car ce sont là les choses qui me font plaisir, l'Éternel le déclare. » Que celui qui veut se glorifier, se glorifie de connaître l'Éternel. Mais plus encore, à nous souvenir que ce lieu appartient à Dieu, qui ne nous appartient pas. Nous avons là une aide. Notre tâche n'est pas de préserver ce lieu, de garder ce lieu comme quelque chose qui nous appartient, comme un trésor qui est à nous. Notre tâche, c'est d'utiliser ce que Dieu met à notre disposition, de l'utiliser comme il le souhaite. Et c'est mon troisième point, la troisième chose que j'aimerais que nous retenions. S'il nous donne cet outil, s'il le met à notre disposition, c'est pour une raison. Comme il a donné ce pays au peuple d'Israël, pour une raison, efforcez-vous dans ce pays d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Le peuple avait cette mission, faire le ménage, éliminer les pratiques idolâtres pour mettre Dieu à la première place, faire un lieu où Dieu était à la première place. Ne pas se mêler au monde, être mis à part. On en a déjà parlé. L'étape pédagogique du peuple d'Israël dans un pays promis n'a pas marché. Et ce n'est pas de la faute d'Israël si ça n'a pas marché. C'est parce que l'homme n'arrive pas, sur ses propres forces, à garder la direction que Dieu donne. C'est pourquoi Dieu a fait en Jésus-Christ cette nouvelle alliance. On risque de me répéter, cette nouvelle alliance pour ceux qui reconnaissent leur péché et mettent leur confiance en lui. Alliance qui leur permet de faire partie de son peuple et de vivre éternellement. Et à nous aussi, qui choisissons de le suivre, nous sommes invités à faire le ménage. Faire le ménage, éliminer les pratiques idolâtres, ce qui prend dans nos cœurs la place de Dieu pour le mettre, lui, à la première place. Adorer le Seigneur de tout son cœur, toute sa force, toute son âme, toute sa pensée, avec cette précision apportée par Jésus, aimer également son prochain comme soi-même, équivalent à aimer Dieu. L'Église comme un lieu pour vivre en cela, mais également pour exercer une mission. Jésus a dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » C'est la mission des disciples de Jésus, être envoyés par le Maître. Jésus est venu dans le monde pour révéler le royaume de Dieu, mais il est parti. Il est retourné au ciel et il a laissé son Église pour révéler au monde le royaume de Dieu. C'est notre mission, c'est celle que nous avons reçue. Et nous l'avons formulée pour nous-mêmes de cette manière, des disciples qui font des disciples. Voilà ce que nous voulons être. À la fois aimer Dieu toujours plus, grandir en lui, mais également être ceux qui poursuivent l'œuvre de Christ et le faire connaître autour de nous, faire de nouveaux disciples. Et si Dieu met à notre disposition cet outil qu'est ce bâtiment, c'est pour nous en servir, pour la mission qu'il nous confie. Si ce bâtiment, il a pour vocation d'être un lieu ouvert, un lieu où ceux qui sont en recherche peuvent rentrer, se sentir bienvenus. C'est bien parti avec les grandes baies vitrées pour montrer que c'est ouvert, qu'on peut rentrer sans crainte. C'est à nous d'en faire un lieu accueillant. Et on a derrière cette salle de culte un espace magnifique avec cette salle agape qui ne demande qu'à recevoir des projets pour accueillir d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas de cette église et les bénir au nom du Seigneur. Ce bâtiment n'est rien si nous ne passons pas à l'action. Alors, invitons, accueillons. Le temps actuel n'est pas forcément le plus favorable avec la crise sanitaire. Cette épidémie de Covid porte la crainte. Mais pourtant, le besoin est là. Le besoin de rencontrer le Seigneur. Le besoin d'être réconcilié avec le Créateur, d'être pardonné pour ce qu'on peut rater dans nos vies, pour le mal qu'on peut faire. Et je crois que même en ces temps plus limités, nous pouvons quand même exercer notre mission. En effet, qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer la règle des 5 minutes? Vous vous souvenez de la règle des 5 minutes? Ma priorité après le culte, même si ça dure que 5 minutes, c'est d'aller parler à quelqu'un que je ne connais pas encore, de l'accueillir au nom de Jésus-Christ. 5 minutes, c'est pas long. Et si on garde notre masque, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Qu'est-ce qui nous empêche d'inviter des amis à venir au culte? On applique les mesures de distanciation. Les rangs sont écartés pour laisser la place d'un rang sur deux. Il y a 2 chaises entre chaque groupe familial. On peut dire à nos amis, tu sais, ce grand projet que nous portions en église, eh bien ça y est, on a fini. Tu veux venir voir? Je pense que la période actuelle ne nous empêche pas de nous mettre en route et reprendre notre mission. Pendant 2 ans et demi, nous avons eu comme point de mire, au bout de l'horizon, ce bâtiment. Maintenant que nous y sommes, quelle route emprunter? La route, elle reste la même que celle que nous avons prise quand nous avons ensemble défini, reçu notre projet d'église, être des disciples qui font des disciples. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de tout ce temps? Je pense qu'une bonne chose à faire, c'est se reposer. Déjà. Michaël a commencé le culte en parlant du récit de la création. Et dès la création, Dieu dit qu'on a besoin de ces temps de repos pour regarder ce qui est fait, pour regarder que les choses sont bonnes. Mais souvenons-nous que ce repos n'est pas le repos définitif. Nous ne sommes pas dans la terre promise. Ce bâtiment, c'est Dieu qui nous le donne. Et il nous le donne comme un outil pour la mission qu'il nous a confiée et qui reste la même, celle d'incarner l'Évangile là où il nous place, dans la ville où il nous place, dans le voisinage où il nous place. Ça peut paraître compliqué, ça peut faire peur, mais il nous a donné les uns aux autres pour que nous nous encourageions, pour que nous nous édifions pour le faire. Alors, persévérons. Ensemble, reprenons la route. Continuons la route. Pour la gloire et l'avancée de son royaume. Amen. Je vous invite à la prière.